impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé
« Près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Le port de la mer de glace, de Dominique Potard. Le meilleur livre de marine écrit sur la montagne. Une fantaisie où tout semble vrai, les histoires de bistrot et l'ascension de la face nord des Drues, même si les méthodes d'assaut employées n'ont rien de classique. On assiste à l'irruption de Rabelais dans la littérature alpine. Cette effraction, Dominique Potard l'a fait sans appui, pour rire. À Chamonix, son public ne s'y trompe pas. Chacun recommande à chacun ce livre, ravi d'avoir découvert quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. Un livre à lire cul-sec.
Dominique Potard est né en 1955. Il est guide de haute montagne. Il découvre l'escalade aux dentelles de Montmirail, rocher dressé autour de la vallée du Rhône, pile entre Vaqueras et Gigondas. Des noms qui, sans aucun doute, marqueront son goût pour la grimpe et les meilleures crues.
À Madeleine et Robert, le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal.
La mer de glace est un glacier du massif du Mont Blanc, un magnifique glacier de 7 km de long, 1200 mètres de large et 200 mètres d'épaisseur, qui avance inexorablement de 70 à 80 mètres par an, soit 8 mm par heure. Dépliant touristique du Mont-en-Vert. D'un point de vue géographique, l'appellation mer de glace commence au confluent des glaciers de l'Échaud et du Tacu, quand ceux-ci mêlent leurs glaces séculaires pour venir s'avancer jusque sous les parois abruptes des Grands Charmoses et des Drues. À cet endroit, la formidable muraille des Drues domine la mer de glace de presque 2000 mètres de hauteur.
Ce nom original lui vient par l'entremise de deux Anglais, messieurs William Wyndham et Richard Pocock, en visite à Chamonix en 1741 et qui furent parmi les premiers explorateurs des Alpes.
Accompagnés de quelques indigènes, ils se rendirent au Mont-en-Vert, un belvédère situé au-dessus du village des Bois, d'où la vue sur la mer de glace est saisissante. Faisant allusion aux crêtes des séracs et aux plis tourmentés des crevasses, ils rapportèrent que le glacier évoquait à cet endroit un lac agité d'une grosse bise et gelé d'un coup. Le nom de glacier des Bois fut vite oublié pour celui plus exotique de mer de glace. D'innombrables touristes viennent chaque été à Chamonix pour voir ce glacier qui a acquis, grâce à son nom, une notoriété internationale. Un petit train à crémaillère permet aujourd'hui de rallier le Mont-en-Vert, altitude 1925 mètres, et de jouir sans fatigue d'un spectacle incomparable.
On raconte ici, à propos de ce nom équivoque de mer de glace, que deux touristes demandèrent un jour s'il était possible d'y louer des pédalos. Le port de la mer de glace de Dominique Potard, suite.
comment un guide de haute montagne, accompagné d'un patron de bar, d'un boulanger et de son chien Serpillière, se lance à la recherche d'un quatrième larron cosmique, parti pieds nus en plein hiver dans la face nord des Drus.
En entrant dans le petit bar de Val-Misère le lendemain matin, je sentis aussitôt que tout n'était plus tout à fait comme avant. Le blanc coulait pourtant normalement et les cantonniers passèrent à l'heure habituelle. « T'es libre en ce moment ? Il se pourrait qu'on ait besoin de tes services. » Il est à présent sûr que Clint Eastwood est parti tout seul en montagne. Et il est tout aussi sûr que nous devons partir à son secours. Une angoisse me saisit quant au contenu du « nous ». Maintenant, j'ai déjà prévenu le Porthos, Fernando. Il est prêt, nous partirons cette nuit. La tournure express des événements me laissait sans voix. Reste à savoir où. L'amiral en profitant pour m'assommer d'une information imprévisible. Il n'y a que toi qui peux savoir où il est parti. Je le fixais avec stupéfaction. Pourquoi moi ? Quand on regarde la mer de glace depuis la vallée, d'ici, quel est le premier sommet à sa gauche ? Je répondis sans mesurer la portée irréversible de mes propos. Les Drus. Et quelle face est la plus à gauche ? La face nord. Nous partirons donc cette nuit à l'abordage de la face nord des Drus. Ça s'arrose. Château Aubryon, grand cru classé. Fernando poussa la porte du bar. Je vois que j'arrive à temps. Alors, c'est où qu'on va ?
Mercredi 19 novembre, à 4 heures de l'après-midi, nous nous retrouvions au col des Grands Montets, à l'altitude très précise de 3323 mètres. Mes deux compagnons s'étaient équipés de leur tenue de ski. Fernando avait insisté pour se coiffer d'un casque d'aviateur datant de la dernière guerre. Le sac de Fernando était monstrueux. Le boulanger avait été chargé au sens propre comme au sens figuré de ce qui touchait à l'intendance de l'expédition. Des pains monumentaux dépassaient de son rabat, tandis que casseroles, poêles et timbales en tout genre, accrochées à l'extérieur, après avoir salué d'un joyeux tintamarre notre départ, s'étaient mis à battre d'un rythme symphonique la mesure de notre avancée. Toby suivait son maître de très près. Notre progression fut tout de suite extrêmement chaotante. Il eût fallu faire preuve d'une rare perspicacité pour deviner que cet équipage-là partait à l'assaut d'une des plus austères murailles des Alpes. L'amiral s'arrêta brusquement en regardant le petit précipice qui fuyait sous nos pieds. « Faut descendre ce mur ? » interrogea-t-il avec inquiétude. Il scrutait la raide muraille, l'œil soupçonneux. « Faut prendre des forces alors !» Château Magdalena, grand cru classé, 1964, une année exceptionnelle. Pop, pop. C'était un nectar exceptionnel. La bouteille fut liquidée sans temps mort. 5 minutes plus tard, nous prenions pied sur le glacier du Nant Blanc. Le problème, il est que sous cette couche de neige, c'est plein de crevasses. Sans autre forme de procès, le Porthos lança une grosse boule de neige devant Gérard et se mit à exciter la Serpillière de la voix « Allez, Topi, file devant, file !» Le chien ne se le fit pas dire deux fois et fonça dans la poudreuse. Je guidais Gérard de la voix vers le gros caillou qui forme sur la crête de la moraine comme une grotte et qui sert d'emplacement de bivouac aux alpinistes. Nous y étions à la nuit tombante. Il n'y avait personne au-dessous, mais un petit foyer cerné de pierres en équilibre dont les cendres semblaient encore chaudes témoignait d'une fraîche visite.
Soulagés de pouvoir enfin nous débarrasser de nos lourds fardeaux, nous nous glissâmes sous la grosse pierre. « C'est vers ça, ici. Il y a même un stock de bois. Ça s'arrose. » L'amiral tira avec précaution son sac à l'intérieur de l'abri. « Demain, C'est le troisième jeudi du mois de novembre, annonça Gérard avec emphase. Une bouteille d'un beau rouge rubis léché par les reflets des flammes se promena sous nos regards. Beaujolais nouveau, annonçait l'étiquette. Il est bon, dit Gérard sans nuance. J'ai bien fait d'en prendre plusieurs bouteilles. La grotte était devenue un espace hors du temps où dansaient les chaudes projections des flammes, résonnant de goulayantes mélodies, parfumées des effluves généreuses du confit de canard qui commençait à rôtir au coin du feu. Nous attaquâmes notre troisième bouteille au moment de passer à table. Les pommes de terre étaient cuites, rissolées à point. Nous, pas loin.
Une agréable odeur de café flottait sous la grotte. Fernando avait rallumé le feu et se tenait devant l'entrée. « Il neige et il y a Toby qui a disparu !» Les sacs furent rapidement faits, il avait beau neiger, il était clair que nous partions à l'assaut de la face nord des Drues. Vers l'altitude de 2900 mètres, les choses sérieuses allaient commencer. « Si j'ai bien compris, dit l'amiral, à partir d'ici ça rigole plus !» Un petit coup de remontant, parce que ça a l'air de remonter par ici. C'était un effroyable breuvage que la gnôle du vieux, l'impression au niveau de l'œsophage d'avaler des cristaux de quartz. Il était temps d'attaquer l'ascension. Une belle lame de granit s'offrit à mes tentacules de sangle, m'assurant d'un amarrage inarrachable. « C'est rigolo ton truc !» s'exclama Gérard rayonnant. « On a l'impression de monter au grand mât. » Ça s'arrose! Pour fêter l'événement, on reprit un coup de gnôle du vieux, dont l'amiral avait gardé la bouteille sous la norac. L'ascension reprit avec une forte impression de chaleur au niveau des oreilles. C'était 10h30, l'heure du petit blanc. Au moins ici, on est sûr qu'il va être à la bonne température, remarqua le taulier du port de la mer des glaces en débouchant une bouteille de Gewürztraminer. Fernando avait puisé dans son sac monstrueux une magnifique tome de Savoie. « Ah ben tu vois, ça me plaît ton truc. » La bouteille ne fit pas un pli. « On va quand même pas rester sur une patte, » s'inquiéta Gérard en extirpant de son sac une deuxième bouteille du Grand Cru. Nous reprîmes l'ascension, plutôt décidés.
Gérard s'élança sans hésiter dans la bagarre, suivi du Porthos avec Toby carrément attaché sur le sac. L'effort de hissage se révéla considérable. D'autant qu'il fallait prendre un soin extrême à éviter tous les chocs. Le contenu du sac de Gérard en particulier s'avérant vital pour le maintien du moral des troupes. Non seulement l'éventualité de briser une bouteille était insupportable, mais il fallait aussi veiller à ce qu'aucun mouvement brusque ne menace de fatiguer irrémédiablement certains grands crus. Transporter un service rare de porcelaine de Chine n'eût pas réclamé plus d'attention. La nuit nous surprit alors que nous nous enfilions dans nos duvets, serrés les uns contre les autres. Fernando attaqua la cuisine du soir. « On en a fait combien sans qui, Gérard ?»« Un quart environ. »« Déjà ? Ça s'arrose. »« Qu'est-ce que tu nous mijotes, Posco ?» Le Porthos, affairé dans son minuscule coin cuisine, répondit avec solennité. « Terrine de foie gras ?» Cuisseau de chevreuil au coulis de framboise, garni de riz aux girolles. C'était la saison de la chasse et des champignons. Il s'était mis à cuisiner sur un inquiétant brûleur prêté par un Anglais pour l'occasion. L'engin fonctionnait à essence et lançait des flammes diaboliques à chaque fois qu'on le mettait en marche ou qu'on faisait mine de le déplacer. On ne pouvait néanmoins reprocher à ce dangereux ustensile son efficacité. Le temps de déguster le foie gras, accompagné d'un excellent chablis, il avait transformé en eau et porté à ébullition une quantité de neige équivalente à 1 litre d'eau. À l'évidence, ce réchaud infernal allait être un élément décisif pour la réussite de notre entreprise. « Je verrai bien un petit Bourgogne avec le chevreuil, dit l'amiral. Le problème, c'est qu'il va être froid. »« Amen, ordonna Fernando. » Le boulanger se saisit de la bouteille de Gevrey Chambertin et la glissa sous la serpillière. L'animal, brusquement réveillé par le contact glacial du litron, regarda son maître avec un air fortement réprobateur. 10 minutes plus tard, le vin était à température. La journée nous avait creusé l'appétit dans un silence recueilli. Nous festoyâmes. Cigare ? Gérard avait sorti de sa poche une boîte de Havane. Une fumée âcre vint bientôt se mêler à la brume environnante.
Le jour où quittons la terre pour l'océan, je vais
La bataille avait été rude, le rocher était verglacé, rendant toute progression en escalade libre très périlleuse. Cela nous valut un bivouac en pleine face, surpris par la nuit et contraint de nous installer dans des hamacs de parois suspendus au-dessus du vide par des pitons. Gérard ouvrit une bouteille de Châteauneuf du Pape, 1976. Fernando déballa du saucisson d'âne, des rillettes du Mans et la quotidienne Tom de Savoie. Le pain de campagne, conservé par le froid, avait gardé tout son moelleux. Une petite vire, au bord même du vide, nous accueillit avec complaisance. La bouteille de Châteauneuf ayant rendu ses derniers aveux, il était temps de nous mettre en route. Toby se mit à grogner.
« Il veut pas y aller !» commenta simplement Fernando. « Comment il veut pas y aller ? J'étais hors de moi. C'est quand même pas ce cabot qui va décider de l'endroit où on doit passer !»«
N'empêche qu'il veut pas y aller !»
« Mais vous vous rendez compte ? À gauche, on va se trouver dans cette muraille là-bas. Vous la voyez ? Vous voyez la gueule qu'elle a ? Vous y voyez ? En plus, c'est bourré de glace. À droite, c'est là que tout le monde passe. Il y a des pitons, il y a des relais solides, il y a du rocher solide. La ligne est évidente. C'est l'itinéraire normal. »
Mes compagnons restaient silencieux. J'avais très mal choisi le dernier mot de mon argumentaire. Notre entreprise n'avait rien de normal. Au bout d'une centaine de mètres, la couche de neige devint plus épaisse. Nous étions à présent dans une zone à l'abri du vent d'ouest, protégée par les ponts nord-ouest des Drues, et la neige fraîche n'avait pas été soufflée. Les premières traces de Clint Eastwood apparurent ici. La nuit tomba alors que nous atteignions le sommet de la niche, une superbe plateforme au pied d'un grand dièdre qui se perdait dans les brumes et l'obscurité fut la bienvenue. Nous n'étions pas prêts de revoir une plateforme comme celle qui nous accueillait ce soir. Gérard plongea le nez dans son sac à dos. Fernando avait annoncé au menu des bavettes à l'échalote avec des frites. J'étais curieux de voir comment elles allaient être frites. La réponse était on ne peut plus simple. Fernando extirpa de son sac, aussi inépuisable que celui de Gérard, 2 litres d'huile et une belle friteuse noire en fonte. Devant mon air décontenancé à l'idée qu'on hissait ça depuis 3 jours, Fernando se fendit de son plus beau sourire. « Mais il n'y a pas de mystère, si l'on veut manger des bonnes frites, il faut une bonne friteuse, c'est logique !» L'amiral, histoire de changer, avait sorti une bouteille de Ricard pour l'apéro. La première fonction du réchaud fut de faire fondre de la neige pour hydrater la célèbre boisson sudiste. Il faisait absolument nuit maintenant. Le pastis allait bon train. L'amiral, profitant de notre soif, exerçait ses talents de barman avec un zèle dangereux.
« Je ferais bien une petite pétanque en buvant mon pastaga, » dit-il soudain, les yeux brillants. « T'es ça, c'est une bonne idée !»
Je n'avais pas encore réalisé qu'il s'agissait d'une proposition sérieuse, que les deux compères grattaient la neige pour en extraire quelques pierres plus ou moins rondes. « On joue l'apéro ?» Toby s'était mis aussi, sans savoir pourquoi, mais avec beaucoup d'enthousiasme, à fouiller la neige en remuant frénétiquement la queue. Quelques minutes plus tard, la partie de boule commençait. Le bouchon de la bouteille de Ricard, de toute façon condamné, servait de cochonnet. Le terrain de jeu était éclairé par les flammes gesticulantes du réchaud.
« Tire-la, cette boule ! Allez, 3 au carreau !»
En ces lieux, cet univers minéral, austère, glacé, inhospitalier de la très haute montagne, on aurait presque cru entendre le chant des cigales. Un boulanger et un barman faisaient une partie de pétanque dans la face nord des Drues, de nuit, en plein hiver ou presque, les tournées de pastis pleuvaient comme sur la canebière. Des frites rôtissaient tranquillement dans la friteuse, en fonte. Je m'efforçais de trouver la situation banale.
Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour.
Il nous fallut 4 jours pour atteindre les vires qui marquaient la fin des grosses difficultés. 4 jours de rude combat, pendus dans les étriers, où nous avions dû avoir recours à tous les artifices de l'escalade moderne. Coinceurs, frênes, micropitots, ancre. Quand il ne grimpait pas, il patientait, parfois de longues heures, en commentant les derniers événements de Val-Misère. J'entendais monter des bribes de conversation, des éclats de voix et des fous rires, où revenait souvent le même sujet cher à Gérard. La taille du cul de Roselyne. La pharmacienne devait avoir les oreilles qui sifflaient. Sans plus attendre, je me l'ai lancé dans la bagarre. 2 secondes plus tard, j'étais au-dessus du surplomb. Il n'y avait personne. Cela faisait exactement 8 jours que nous étions partis. La distance avec le monde extérieur était devenue incommensurable. Nous installâmes notre 8e bivouac à la nuit sous un large surplomb. Nous n'étions plus très loin du sommet, tout au plus une journée d'escalade en terrain plus facile. Les sacs s'étaient bien allégés, nous n'aurions plus à les hisser. « Bon, ben demain si on est au sommet, dit Gérard, on va finir les munitions. » Le Porthos déballait déjà l'artillerie lourde. Réchaud, poêle géante, plus un énigmatique faitout que je voyais pour la première fois. « Et qu'est-ce que vous diriez d'une choucroute ?» Ça permettrait de finir le blanc. Le faitout ôta son chapeau et découvrit une choucroute pour au moins 10 personnes. Elle sentait encore bon malgré ses 8 jours de voyage. Vous allez rire. C'est Roselyne qui me l'a préparée. On est tranquille. C'est sûrement pas une recette minceur. Ah ben, si on m'avait dit que j'aurais grimpé un truc pareil, bon gut, bon gut. On boira jamais assez pour fêter ça. Bon gut, bon gut. C'est nous les gars de la montagne, Antonin l'amiral archifaux. C'est nous les gars de la montagne. Ah ah ah, qu'il fait bon, ah ah ah, qu'il fait bon. C'est nous les gars de la montagne. Ah, qu'il fait bon grimper les monts. Fernando attaqua un air de fado encore plus faux. La serpillière s'était mise à hurler à la mort.
Fais pas chaud. Comme tous les matins, l'agréable odeur de café de Fernando nous cueillit au réveil. Le froid était plus vif que les autres matins, mais la brume semblait moins dense. On devinait qu'au-dessus de nous, après un dernier mur assez raide, la paroi se couchait enfin et se perdait dans les nuages. Nous nous élevions avec grâce et agilité comme des chamois. Il devait être à peine 4 heures lorsque nous atteignîmes l'arête sommitale. La brume devint translucide, comme cela se produit parfois à la limite des nuages. Une auréole dorée se mit à cerner le contour de nos têtes. « T'as vu ? Il y a l'amiral qui se transforme en bon Dieu !» La montagne s'arrêtait là, nous étions au sommet. Après tout ce temps passé dans l'ombre et la nuit, c'était un paysage d'une merveilleuse beauté presque surnaturelle. « Merde ! On a atterri au paradis !» Fernando avait mal supporté le retour à la lumière. « Regardez, regardez là, Jésus !» Il pointait une main tremblante vers l'autre versant de la montagne. Là se tenait Clint Eastwood. Il marchait sur les nuages.
je compris l'étrange empreinte qui bordait les traces de notre prédécesseur. Une longue planche qu'il avait encastrée sous un rocher le portait maintenant au-dessus du vide de la face ouest. Il avançait sur son invraisemblable tremplin en costume de bain, balayant l'azur de ses longs bras maigres. Encore deux pas. Il avait pris son élan sans hésiter et sauté souplement sur l'extrémité de la planche. Il s'élevait dans les airs, plus haut que le soleil, sa fragile silhouette se découpant dans le ciel. Une trouée s'ouvrit dans la brume. 2000 mètres plus bas, la mer de glace déroulait ses vagues tranquilles.
Le coup de tire-bouchon stoppa Clint Eastwood en plein vol. « Saint-Émilion Grand Cru 1955 », annonça l'amiral emphatique. Eastwood avait fait un quart de tour sur lui-même et nous regardait maintenant comme si nous débarquions de la planète Mars. « Château Grand-Maine », continua Gérard en lui montrant la bouteille. « Autant dire que ce n'est pas de la piquette. En plus, c'est un magnum, cadeau d'un capitaine de goélette que j'avais coulé au 421. » Convaincu d'avoir affaire à une apparition, le philosophe de Val-Misère fit mine de repartir sur son perchoir céleste. Clint Eastwood s'immobilisa, le temps s'immobilisa, tout s'immobilisa. Le regard de Clint plongea une dernière fois vers les eaux troubles de la mer de glace. Quittant à regret sa planche de salut, il regagna ses habits, soigneusement pliés sur une pierre. Le plongeur des drues se rhabilla en silence au bord du vide. Fernando, remis de ses élans mystiques, avait sorti 4 verres. Eh bien, celle-là, on l'a bien méritée. Le Bordeaux quitta en chantant toutes ces années d'attente. Nous nous étions regroupés autour du sommet pour déguster le précieux nectar. C'était un vin extraordinaire. Chaque gorgée nous ouvrait les portes du ciel. Putain, il monte droit à la tête! La dernière bouteille de notre voyage accompagna la courbe descendante du soleil. Nous flottions sur la cime des drues comme sur une île.
On lève l'ancre. L'amiral, debout fièrement sur la cime des drues, pliait notre corde comme un professionnel. Il faisait grand beau, le soleil était déjà haut au-dessus des droites, mais la vallée était encore plongée dans l'ombre. Ivres de fatigue, nous nous étions endormis à même les blocs inconfortables du sommet. « Eh ben, en bas, j'en connais 2 ou 3 qui doivent commencer à crever la soif !» continua Gérard. Il levait la corde à grands mouvements, repoussait soigneusement tous les taurons. « Les cordes, heureusement qu'elles sont là, elles t'attachent au bateau, elles t'attachent à la montagne, elles t'attachent à la vie !» Il était en pleine forme. « C'est tout pareil, ça, la mer et la montagne, il y a des cordes, des nœuds, et puis des gens qui détachent tout et qui quittent le port. Ils partent avec leurs cordes et ils s'attachent au jour le jour, jamais au même endroit. » Ah, la montagne, c'est jamais qu'une mer un peu dure. Ah ah, des marins d'eau dure. Voilà ce que c'est que les montagnards, des marins d'eau dure.
De Marine écrit sur la montagne, le port de la mer de glace de Dominique Potard. La lecture était assurée par Gabriel et Monique, à la technique Vincent et Claude Michel. À bientôt.
chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.